Hello tout le monde, retour de voyage, retour de découverte d'un beau pays qui était le Costa Rica, retour d'un moment perdu au milieu de la nature, très très loin de tous ces sujets de partage audio, de curiosité, d'échange. Voilà, c'était très très inspirant et ça va certainement donner lieu à des sujets de podcasts bien différents de ce que j'avais en tête même avant de partir, donc ça va être plutôt sympa. Mais pour pouvoir garder un peu le fil conducteur de ce qu'il y avait avant, et surtout parce que j'ai eu une très belle discussion avant de partir avec Romain Couturier, voilà notre échange de 26 minutes à peu près, avec cet acteur du monde entrepreneurial, du monde entreprise, et cet acteur du changement en fait de ce qui est un peu en train de se passer en ce moment. Romain Couturier est coach agile et aussi facilitateur graphique, donc il aide les gens à mieux collaborer ensemble. Et on a échangé un petit peu sur tous ces sujets, on a échangé aussi sur sa posture, sur sa manière de gérer le fait d'être indépendant, de comment conduire sa boîte, de comment gérer justement cette posture d'acteur d'une modification de la société qui est en cours. Très intéressant, sa vision des choses est très inspirante. Donc je vous invite à découvrir cette conversation qui a été faite, comme j'essaye de le faire à chaque fois avec les podcasts Nextdoor, complètement à l'improviste, sans préparation. Le but, c'est vraiment que ce soit une discussion qui soit fluide, ouverte, pour que vous ayez l'impression d'y être. Voilà, de mon côté, je vais continuer à préparer la suite avec d'autres interviews, d'autres rencontres, d'autres personnes, potentiellement d'autres sujets d'inspiration. Voilà, le but, comme à chaque fois, ça sera d'ouvrir des portes de curiosité, les entrouvrir pour que derrière vous puissiez aller plus loin si vous avez envie, sans aucune autre volonté ou vision plus large que ça. Le plus important, c'est vraiment de stimuler cette curiosité. Voilà, je vous laisse avec la discussion avec Romain Couturier et puis rendez-vous dans un prochain épisode. Profitez bien! Alors aujourd'hui, je suis avec Romain Couturier qui fait suite à Marilyn avec laquelle j'étais la dernière fois. Ça, du coup, je te partage ça aussi. On a discuté, elle a monté une communauté qui s'appelle les Content Lovers. Je sais pas si tu connais. En gros, c'est une communauté qui tourne autour de tous ceux qui font de la rédaction de contenu, du content management, de l'architecture d'information sur Lyon. Et elle voulait qu'on discute autour du sujet du freelance parce qu'elle, ça fait 2 ans qu'elle est indépendante. Et son gros questionnement du moment, c'était comment est-ce que tout ça va évoluer avec le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui partent des entreprises, avec les problématiques qu'il peut y avoir aussi avec les différentes communautés de freelance qui se montent, il y en a certaines qui sont plutôt vertueuses, d'autres qui ne le sont pas forcément. Donc on avait exploré un petit peu toute la partie freelance. Et là, ce que je trouvais intéressant, c'était d'explorer avec toi justement, ben, toi aussi tu es indépendant, d'explorer un peu ben, toi, ton activité professionnelle et comment est-ce que cette activité-là s'entremêle avec les entreprises et les problématiques que tu peux avoir par rapport à ça, et puis les solutions que tu trouves aussi de ton côté. Donc, à la limite, je te laisse déjà te présenter au départ, et puis après, on peut discuter de tout ça.
Ouais, donc bah, je m'appelle Romain Couturier, j'ai 2 activités principales. Donc, je suis coach agile et facilitateur graphique. Donc, à la base, je me suis monté en indépendant autour du coaching agile. Donc, c'est tout ce qui est l'accompagnement, la mise en place de l'agilité dans les entreprises. De faire de la formation, de l'animation, d'ateliers, forcément des jeux. Et puis, à un moment donné, il m'a manqué une brique. Je sentais qu'il manquait quelque chose dans mes ateliers, dans la façon dont j'avais d'interagir avec les gens. En tout cas, il y avait des choses qui ne se passaient pas. Et donc je suis tombé sur la facilitation graphique. Donc là, j'ai toutes les lumières qui se sont allumées. Et du coup, ben, je l'ai décliné comme une offre à part entière, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'interviens en facilitation pure. Et en fait, ben, mon activité, elle se construit comme ça, en fait, depuis 6 ans, là. Je suis en train de me rendre compte, parce que je suis en train de restructurer toute ma marque. Terre d'Agile, ma marque initiale, je vais la faire disparaître.
D'accord.
Elle va disparaître cette année, là. Elle va être remplacée par une autre marque qui redonne de la cohérence à ce que je fais aujourd'hui, parce que je ne fais pas que du coaching agile et que de la facilitation graphique. Je fais aussi de l'animation de séminaires, parce que du coup, animer des jeux dans une formation agile, bah, finalement, quand on le transpose ailleurs, bah, on peut se rendre compte qu'on peut faire aussi pas mal de choses dans d'autres contextes, avec d'autres fonctions d'entreprise. Oui, mais sauf que quand on commence à animer des jeux, bah, du coup, il en manque des fois parce qu'on ne trouve pas forcément ce qu'on veut. Donc, bah, je crée maintenant mes propres jeux. Du coup, bah, l'année dernière, j'ai monté ma boutique en ligne pour vendre mes propres jeux. Donc maintenant, je fais de la production de jeux. Et pareil, maintenant que Une fois que tu as créé le premier, bah, le deuxième est plus facile, le troisième devient plus facile. Donc l'idée, c'est de développer ça. Donc ça continue. Et en fait, ça va toujours être comme ça. C'est-à-dire que sur des missions, il y a une commande initiale sur des domaines de compétences qui sont, on va dire, les domaines majeurs dans mon activité. Et après, il va y avoir des demandes un peu ad hoc. Et souvent, ces commandes ad hoc, eh ben, je vais aujourd'hui les transformer en des offres, en fait. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, par rapport à ce que je vais faire, donc ma future structure va s'appeler Super Tilt. Et l'idée, c'est de la concevoir comme un espace dans lequel il va y avoir beaucoup de choses. Je vais pouvoir proposer à peu près tout ce que je sais faire. Et ce n'est pas forcément une seule catégorie, une seule cible d'utilisateur. Donc ça veut dire que demain, tu vas arriver sur mon site, ça va être une boutique en ligne où tu vas avoir des produits comme sur un Amazon, en fait. Tu as plein de choses différentes. Et après, à toi de voir ce que tu cherches. Et en fonction de ce que tu cherches, je vais te proposer des choses. Et là, j'ai reçu une nouvelle demande cliente hier. Ben, finalement, je vais décliner ça comme une nouvelle formation parce que le travail que ça va me demander n'est pas forcément si énorme. Et donc, je peux tout à fait le proposer à part entière. Et donc, l'idée, c'est de créer des micro-offres comme ça, qui vont avoir des micro-marchés, peut-être des offres éphémères, mais qui coûtent, entre guillemets, pas trop cher à créer et
D'accord.
qui vont s'appuyer sur des choses que j'ai déjà faites. Donc, il y a toujours une proximité sur tout ce que je vais proposer. Et j'avais au démarrage, au lancement de mon activité, les choses se sont empilées sans forcément qu'il y ait de cohérence. C'était juste par pur plaisir. Et en fait, en retravaillant sur la marque et en retravaillant sur la stratégie globale, je me suis rendu compte que ça avait beaucoup plus de sens. Enfin, que mon mode de fonctionnement, en tout cas, c'était ça. C'était de dire, finalement, à partir d'une compétence initiale, bah, je fais pas mal d'autres choses. Et en fait, de créer des ponts comme ça, de compétence en
Donc, tu
compétence.
interconnais un petit peu toutes ces nouvelles petites
Ouais,
cellules
c'est ça.
que tu as fait
Par
émerger.
contre, connecter les unes entre elles, ça ne forme pas un tout que je vais proposer à un client. C'est-à-dire que je vais pouvoir m'adresser à plein, plein, plein de clients différents sur des sujets très, 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 très variés. Ouais,
Et après, c'est toi qui pourras les réorienter vers les autres ponts
ouais
qu'il peut y
c'est ça.
avoir et qui peuvent correspondre à ce qu'ils ont besoin.
Exactement. Donc ça forme comme un écosystème de choses qui vont s'enrichir. Parce que du coup, demain, je sais que maintenant que j'ai compris ce mode de fonctionnement, je vais pouvoir rajouter des briques là-dedans. Là, par exemple, une brique là, que je vais développer cette année, c'est toute la partie vidéo. Donc là, je suis en train de travailler sur comment créer une plateforme de formation en ligne qui va être une déclinaison de ce que je fais en présentiel,
Mais le faire online.
mais le faire online. Voilà.
Ok.
Parce que j'ai envie de bosser avec. Parce que je suis jeune papa, que j'ai envie de plus de bosser chez moi. Mais en même temps, j'ai envie de bosser avec pas mal de gens qui ne sont pas à Lyon. Et donc, bah, j'ai trouvé cette réponse-là. Donc, ça
D'accord.
va se rajouter.
Ok. Et est-ce que dans toute cet écosystème de propositions, tu as une vision commune en fait derrière tout ça? Ou est-ce que ça reste quelque chose qui est assez vivant et qui est assez
La vision commune, elle est, en fait, celle qui s'est détachée, c'est de créer les conditions pour provoquer un déclic chez les gens. Un déclic pour qu'ils changent, un déclic pour qu'ils, je sais pas, ils gèrent mieux leur temps, un déclic pour qu'ils soient, entre guillemets, plus agiles, un déclic pour qu'ils travaillent ensemble, un déclic pour plein de sujets, en fait. Des déclics à plusieurs pour qu'ils prennent conscience. Sauf que la prise de conscience, on ne peut pas la piloter, ça reste un exercice qui est intime. Je prends conscience ou pas, mais on peut créer des conditions favorables à cette prise de conscience. Et donc, quand je fais du coaching agile, bah, c'est pour aider à prendre conscience de la nécessité de délivrer de la valeur, de travailler en équipe. La facilitation graphique, bah, c'est pour aider à prendre conscience de la compréhension, enfin, des informations qu'on reçoit, non pas de manière verbale, mais plutôt de manière visuelle. En fait, c'est ça le fil conducteur. Quand je fais du Lego Serious Play, c'est pareil. C'est pour aider à prendre conscience de la complexité des systèmes et à déterminer des stratégies de résolution de ces systèmes-là. Voilà, les jeux, c'est un peu la même chose. C'est comment un jeu, à partir d'une simulation, ça va nous aider à comprendre. Ah ouais, en fait, on fonctionne comme ça. J'avais pas vu, et grâce à la simulation. Voilà. Ça,
D'accord.
c'est le point commun.
Et est-ce qu'après ces déclics, toi, tu auras envie que quelque chose se passe en particulier, ou est-ce que ton envie, c'est simplement d'être sur cette partie déclic? Simple. Quand je dis simplement, c'est déjà très très fourni, mais
Ouais. Oui, sur certaines parties, type l'agilité pour donner une continuité. Mais en fait, une fois qu'il y a eu le déclic, la plupart des gens, en fait, l'action, elle s'arrête quasiment d'elle-même parce que les gens, après, une fois qu'ils ont eu le déclic, ça va très vite s'accompagner d'une séparation. Parce qu'une fois que tu as pris conscience d'eux, tu n'as plus besoin t'as plus besoin d'avoir une béquille de quelqu'un qui t'aide à prendre conscience que voilà. Si tu as pris conscience que reprendre le sport, c'est bon pour ta santé, tu n'as plus besoin après de prendre une application ou d'avoir un coach pour t'entraîner parce que tu t'auto-alimentes, tu t'auto-motives. Ce qui n'est pas vrai surtout, hein, mais très souvent, ça va être le cas.
Donc
Et
toi,
puis
maintenant,
surtout, après, la prochaine problématique va se situer ailleurs.
et à
Donc
ce moment-là,
c'est plus forcément moi qui serai compétent sur le sujet-là.
d'accord. Et donc toi, justement, est-ce que quand les personnes peuvent, est-ce que quand elles ont des clics derrière, justement, quand ça a évolué leur situation, si jamais elles sentent que y a quelque chose d'autre qui accroche, toi, tu es quand même là pour justement les réorienter vers des personnes avec lesquelles tu es complémentaire pour,
Ah bah oui.
ouais.
Ouais. Bah souvent en plus cette notion de déclic, cette prise de conscience-là, après il y a le temps d'installer le nouvel état. C'est-à-dire que les gens viennent généralement d'une forme de difficulté où il y avait quelque chose qu'ils essayaient de corriger. Donc le fait qu'ils comprennent comment est-ce qu'ils vont pouvoir le faire, après il y a le temps pour que ça d'installer et surtout de profiter de OK, maintenant on va fonctionner comme ça. Et donc on va profiter aussi d'avoir trouvé cet état-là parce que ça fait du bien, ça soulage, avant de repartir sur OK, maintenant on va se re-questionner. Le mouvement permanent, il est quand même globalement pas assez peu présent. Il y a des personnes qui sont en mouvement permanent, mais des groupes en mouvement permanent, c'est quand même beaucoup plus compliqué, quoi. Il y a pas mal de gens qui veulent aussi prendre le temps de profiter,
Oui, d'avoir passé un cap.
d'avoir passé un cap avant d'envisager un nouveau cap. Surtout que le cap d'après, souvent, il n'est pas évident parce qu'on sort d'un cap qui était très clair, qu'il fallait absolument franchir. Où tout le monde avait les yeux rivés dessus, ok, on a réussi à dépasser ça. On voit surtout le cap qui est derrière, mais le nouveau cap de devant, il n'est pas clair. Alors il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui arrive avec une nouvelle vision, mais rembrayer tout de suite dans la foulée sur un nouveau changement, genre, plein qui disent attends.
Ouais, bien sûr.
Tranquillement.
Et est-ce qu'il t'est arrivé un petit peu des situations comme moi je peux avoir justement quand je travaille avec des groupes de travail, le fait que on m'apporte des fois des problématiques qui ne sont pas forcément des causes mais qui sont des symptômes, et que le fait d'avancer sur le symptôme, ça apporte forcément des solutions, mais qui du coup peuvent être aussi des nouvelles causes d'autres problèmes, vu qu'on n'était pas en train de traiter une cause, qu'on était en train de traiter un symptôme. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé ce genre de situation?
Bah, tout le temps, à peu près. Je pense que
D'accord.
c'est à peu près tout le temps ça. Parce que comme je ne connais pas les causes, en fait, je peux même limite pas savoir si je suis sur un symptôme ou sur une cause. Et en fait, il y a quelques années, j'ai compris que c'était plus mon sujet. Donc, mon sujet, c'est d'arriver à ce que les gens prennent une décision collectivement.
D'accord.
Bah, déjà, si on arrive à faire ça, et qu'ils la tiennent, et qu'ils sont d'accord entre eux, waouh, déjà,
Bah oui, non, mais ça
c'est
c'est
bien.
sûr.
Et après, donc c'est déjà de les rendre responsables collectivement d'éventuels problèmes qu'ils auraient causés. Mais du coup, il n'y a plus les mêmes réflexes de recherche de causes, justement, de causes par les personnes. Parce que déjà, on aura pris une décision collective. Et ça peut être des décisions très simples, hein. La décision, ça peut être juste de dire, on est tous d'accord pour dire qu'il faut qu'on sorte du bureau et qu'on aille parler à la personne qui est au bout là-bas, juste pour lui poser une question. Parce que souvent, c'est des choses qui paraissent évidentes. Et alors après, oui, ça peut amener d'autres problèmes. Enfin, en tout cas, ça va surtout amener d'autres questions.
Oui, voilà. Et est-ce que selon toi, le fait d'avoir justement des déclics, que ces déclics amènent une collaboration, une compréhension, potentiellement amènent d'autres problèmes, est-ce que ça, le déclic amène aussi justement une prise de conscience un peu plus globale et un remodèlement un peu de la pensée de ces personnes qui sont un peu plus organisées en système? Qu'ils aient un peu une conscience en fait de se dire, bon bah voilà, là, on est tombé d'accord sur plein de choses, on a eu plein de déclics, mais malgré ça a créé d'autres source de problèmes, ce qui fait qu'on commence à avoir d'autres déclics. Est-ce qu'après, selon toi, ça va ouvrir sur une sorte de conscience qui est un peu plus large?
J'avoue que je ne sais pas répondre à cette question. Ce serait plutôt sur la thématique de la conscience collective. Des consciences individuelles, oui. Des gens qui ont pris conscience de certaines choses, mais qui se retrouvent un peu seuls avec des gens autour d'eux qui n'ont pas eu le même niveau de prise de conscience, ça j'en vois beaucoup, et qui du coup ont une forme de frustration. qui peut même amener parfois au constat paradoxal de se dire que j'avais peut-être pas intérêt à intervenir en fait. Parce que
Parce que du coup, ça crée un déclic sur seulement une personne qui du coup va se retrouver
ça
frustrée.
crée pas de déclic sur suffisamment de personnes vu la nature du problème en fait. Où ça demande tellement de bousculer des montagnes que c'en est frustrant en fait. Parce qu'il y a des gens qui comprennent et qui ont envie d'aller très vite, notamment avec l'agilité, des gens qui ont compris ça. Faut que ça avance. Sauf que quand ils voient que derrière, il y a tout un train de personnes qui ne partagent pas forcément les mêmes envies, les mêmes motivations, pour d'autres raisons qui sont tout à fait valables, bah, se retrouvent à avoir en fait creusé l'écart. Elles se sont encore plus éloignées du groupe
Ouais, bien sûr.
duquel elles appartiennent. Et donc ça, du coup, ça devient un problème. Alors c'est pas dirigé contre moi parce que moi je sais pas, je suis jamais responsable de ça. Mais voilà, c'est un vrai travail derrière à engager.
Ça rejoint un peu la discussion qu'on a avec Marilyn la dernière fois sur le fait que on se posait la question si il y avait vraiment possibilité d'arriver à créer une transformation à l'intérieur d'une entreprise. Quand une entreprise ou un grand groupe a un historique depuis très longtemps sur un certain modèle, que les personnes qui sont dedans ont aussi une certaine situation de confort ou d'inconfort, mais qui les sécurisent quand même. Et te dire, est-ce que il y aura la possibilité qu'il y ait plein d'acteurs qui puissent rentrer dans ces systèmes, arriver à les modifier, les rendre agiles et que ça devienne vertueux? Ou est-ce que le modèle sera plutôt de se dire, ben, justement, toutes ces personnes qui ont des déclics en interne, qui n'arrivent plus à avancer avec l'entreprise, en sortent, se restructurent à l'extérieur avec d'autres personnes qui sont sur des modèles agiles eux aussi? Et que ensuite, quand l'extérieur des grosses structures commence à un petit peu être interconnecté, à ce moment-là, inviter les entreprises à se dire, bon ben voilà, si vous avez telle ou telle problématique, venez réfléchir à ces problématiques avec les systèmes à l'extérieur, qui sont eux beaucoup plus agiles, et que ça puisse faire en sorte d'enclencher vraiment des modifications de l'entreprise, mais par une structuration qui est extérieure à l'entreprise.
Bah oui. Sur toutes les petites boîtes que j'accompagne, ça c'est ultra efficace. En fait, l'efficacité, elle arrive quand il y a une nécessité profonde. Moi, c'est le point commun. Après, j'ai vu des armées de coachs dans des grandes boîtes où on ne voit pas nécessairement de grands résultats. Par contre, toutes les petites boîtes qui sont quasiment pas en survie, mais entre l'attention de rester viable et la nécessité de survie, toutes ces boîtes-là, elles se posent pas la question, quoi. Ça bouge, ça se transforme, ça avance.
Elles savent qu'elles ne
Et
peuvent pas forcément faire toutes seules de l'intérieur et du coup elles ont
voilà.
besoin de se greffer sur des réseaux extérieurs.
Exactement. Mais le terrain est déjà favorable, c'est-à-dire que les conditions pour le déclic sont déjà un peu présentes. C'est-à-dire qu'il y a juste besoin d'amener l'étincelle, mais il y a déjà tout. Dans des boîtes plus grosses, voilà, pourquoi se réinventer? Voilà, toutes ces notions d'innovation qu'on entend, ok, c'est très bien, on peut prendre plein d'outils, plein de choses, plein de démarches hyper structurantes, hyper intéressantes, mais derrière, il n'y a pas nécessairement l'envie, et l'envie collective, mais l'envie collective, c'est diluée sur tellement de personnes que comment on génère cette envie collective? Là, ça prend peut-être un peu plus de temps. Moi, j'ai un client, là, ça fait un an qu'on essaye de préparer le projet de démarrage, hein, un projet pilote en agile. Bon, bah, ça y est, ça fait un an, ça y est, ils sont prêts, ils sont mûrs. Mais il a fallu faire du lobbying un par un avant de toucher l'influenceur
De la
de
structure.
la structure pour qu'il donne, juste qu'il distille un message qui devait être verbalisé d'une certaine manière pour que ça redescende et que les autres se disent, OK, maintenant on a le droit, on peut y aller.
Ouais, donc vraiment cette organisation pyramidale des grands groupes qui, si jamais c'est pas le bon influenceur qui est touché, fera qu'on pourra de toute manière jamais rien débloquer derrière.
Et exactement. Et donc contre cette croyance, alors qu'elle est juste ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, même en expliquant aux personnes qu'on peut quand même avancer, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une personne pour, parce que déjà, fondamentalement, déjà, elle n'est pas contre, donc ça, en soi, c'est pas un frein si elle n'est pas contre. Maintenant qu'elle ne soit pas pour, c'est pas un frein non plus. Donc avançons, faisons quand même des choses. Non. Voilà. Donc tu as aussi les gens qui se mettent dans des conditions pour se dire que je ne peux faire ce changement
Si jamais c'est
que
validé
si jamais
par...
j'ai ces conditions qui sont réunies. Et donc, voilà, tu mets trois bonhommes dans une pièce, ça devient très vite très compliqué. Alors,
Ouais,
si t'en mets
forcément.
20, tu connais ça aussi bien
Ouais,
que
je
moi,
connais
donc.
bien. Et pour les structures justement qui sont plus aptes à décliquer rapidement, tu dirais que c'est qui ou c'est quoi qui les a influencés pour qu'ils se disent OK, on y va. À part peut-être la pression, je sais pas, la pression économique ou des choses comme ça. Est-ce que selon toi, il y a certains types d'influenceurs ou de. Est-ce que les dirigeants sont
Mais je
les, je sais
pense que
pas.
l'entrepreneur, c'est celui qui inspire le plus. Enfin, le point commun, je ne vais pas faire une généralité,
Ouais.
mais si j'essaie de réfléchir au point commun sur toutes les bonnes transformations qui sont passées, à chaque fois, il y a eu un entrepreneur, c'est-à-dire dans le sens positif du terme, quelqu'un qui veut développer une idée, un projet, qui a une logique économique.
C'est viable.
Qui est viable, qui a aussi compris que le moteur de son entreprise, c'était les personnes, et qui veut les embarquer avec, c'est-à-dire qu'il y a, qu'il y a, et derrière des gens qui reçoivent ce message-là et qui l'entendent. Donc du coup, tu te retrouves avec un sponsoring fort et une envie forte. Voilà. Ce qui n'est pas forcément le cas dans des boîtes où il y a une culture plus diluée, où on se dit que le sponsoring est présent, alors qu'en fait il est absent. Et réciproquement, tu as aussi des gens qui disent mais je sponsorise et des gens qui n'entendent pas le sponsoring en disant non, non, fais pas. Après, est-ce qu'ils ont envie? Est-ce qu'on leur donne les moyens d'avoir envie aussi? C'est pareil. Là, quand tu es connecté directement, voilà, là j'ai une petite boîte, ils sont 50, quand on t'explique que quand tu as accès à l'information quasiment tous les 3 mois de la marge de la croissance que fait l'entreprise. C'est une information stratégique auquel tu n'as pas forcément accès dans plein d'autres boîtes. Et donc, les gens, ça les stimule de leur dire, ah, on a gagné le projet sur ça. Derrière, ça va se traduire en tel niveau d'activité. Tu vois, ça descend, ça monte et ça descend très très vite.
Il y a vraiment une notion de proximité, contrairement au gros groupe. Moi, je le vois pas mal aussi quand je bosse. Là, je bosse avec un grand groupe, justement. Et eux ont cette problématique qui est. Là, je suis avec le niveau qui est N-2, donc avec les DRH. Et vu que le groupe est très fourni, il y a plus de 100 000 collaborateurs, et que les questions tournent autour de l'actionnariat, en fait, des collaborateurs, on a trouvé des solutions et on a validé certaines hypothèses. Mais là, moi, mon travail qui normalement est plus vraiment d'arriver à faire émerger ces solutions et puis qu'ensuite elles puissent être directement balancées dans des cycles agiles de développement et de mise en place, on va être de faire tout un rapport et un storytelling sur tout ce qui s'est passé, d'arriver à les aider en fait de trouver l'argumentaire qu'il faut pour que quand ils vont faire remonter cette information au CODIR, le CODIR puisse dire ah ok, ça a l'air cool votre truc, donc je vais vous libérer les budgets pour que vous fassiez ça. Alors que tout a été fait pour que ça soit validé, on a eu des testeurs, on a fait vraiment remonter cette information, c'est viable, c'est faisable et c'est tout là. Mais la friction est toujours sur le fait qu'il y a un homme à convaincre ou deux ou trois, quatre
Ah,
hommes à
c'est ça.
convaincre dans les grands groupes.
Ouais,
Alors que dans
c'est.
les plus petites structures, là, la personne à convaincre est pas forcément. Enfin, c'est même elle qui a le profil plus entrepreneur en général et qui va emmener toute sa structure.
Moi, c'est ce que j'ai vu.
Ouais, c'est
En
ça.
tout
En général, c'est
cas,
ça, c'est
là
plus
où je suis
le.
intervenu, là où je vois que ça bouge, c'est qu'il y a toujours cette personne qui inspire, qui donne sa vision. Et aussi, dans le regard des personnes qui travaillent avec elle, les gens attendent de cette personne quelle est la vision. C'est aussi ça. C'est que.
C'est le côté leadership, du coup.
Oui, c'est-à-dire que c'est réciproque. C'est-à-dire la personne qui a la vision est aussi légitime vis-à-vis des personnes en face. Ce qui, des fois, n'est pas le cas. Tu peux te retrouver avec des gens qui vont avoir la vision, qui vont être légitimes, mais en fait, les personnes autour n'écoutent pas ça et vont se forger. Une opinion, une idée, et donc vont vouloir aussi influencer cette chose-là. Et donc c'est ça qui est délicat, c'est que dans une ère où on fait la promotion de l'ultra-collectif tout le temps, comment est-ce qu'on prend en compte les avis des gens dans la construction de cette vision collective, là où dans certains espaces, clairement, elle ne peut pas être aussi collective que ça, cette vision. Elle ne peut pas être co-construite de manière collective. Enfin, en tout cas, moi, j'y crois plus à cette espèce d'universalité de la vision collective où tout le monde a contribué. C'est juste pas possible. À un moment donné, c'est pas faisable. On le voit d'ailleurs sur des groupes très grands. Tu peux pas mettre 50 personnes et co-construire une vision. Enfin, tu peux, mais ça va te prendre énormément de temps, énormément d'argent. Est-ce que les gens ont envie d'y contribuer aussi? Il y a plein de gens, on leur demande de faire, alors qu'en fait, ils disent juste, mais c'est pas mon
Oui,
job, quoi.
ils ont envie d'être dans le bateau.
C'est le vôtre. Donnez-moi les instructions claires et je le déclinerai. Par contre, laissez-moi de l'autonomie et faites-moi confiance, ça il demande. Et qu'à un moment donné, il y a aussi une répartition de responsabilité. Voilà. Et donc, dans les boîtes où il y a un peu tous ces ingrédients qui sont réunis, ouais, ça dépote. Et ça, c'est chouette. Mais y compris dans les grosses, hein, tu peux être dans une très grosse structure où tu as, je le vois, j'ai fait un client l'année dernière, voilà, un influenceur, le mec, il a créé une bulle. Ça lui a fait tout drôle.
Cet influenceur était dans...
Ah oui, il a fait obstacle, mais je pense que les gens se rendent pas compte de tout ce qu'il a pris sur lui, déjà à titre personnel pour créer cet espace de travail agile, et puis comment il a dû faire bouclier auprès de tout le reste de la structure pour éviter que l'initiative se fasse phagocyter. Et le projet, il a dépoté. Ils
Et
n'avaient
au niveau
jamais
de
vu
sa
ça.
hiérarchie, était quoi? Était
Ah
manager,
bah parce que t'as
teamer
une, parce que c'est une multinationale et que tu es dans une culture de tout le monde doit être consulté pour prendre la moindre décision et au final. Et donc le choix de dire, écoutez, vous savez quoi, là-dessus, on y va. Ça, on le fait. On verra plus tard avec les Allemands, on verra plus tard avec les Anglais, on verra plus tard avec les Américains où j'en fais mon affaire. Ça, c'était tout nouveau, quoi. Donc on peut aussi avoir des initiatives dans les grosses boîtes. Et là, clairement, le rôle du sponsor, il est énorme. Il est énorme.
Ouais, donc clairement, les portes d'entrée en fait pour arriver à assainir ou améliorer l'état des que ce soit des grands groupes ou des structures plus petites, c'est vraiment ça repose vraiment sur des personnalités en fin de compte, des personnes qui sont sur cette dynamique
Oui.
d'entrepreneur et qui
Ouais.
vont chercher
C'est ça.
l'information
Dans mes
à
interventions,
l'extérieur.
c'est ça, ouais. Là,
D'accord.
j'ai une autre mission l'année dernière. La personne qui m'a commandé la mission, c'était clairement pas la bonne. C'était clairement pas un influenceur. Bah, il s'est rien passé. On a fait du. Voilà,
Oui, donc il
on
faut
a fait de
tester.
l'air. Pardon. On a brassé pas mal de choses. Mais il s'est rien passé parce que ça n'a pas été sponsorisé. Et les gens n'avaient pas envie, quoi. Donc ça
Faut
avance
que c'est
pas.
cette démarche de recherche, de trouver ce qu'il peut y avoir comme solution extérieure, mais aussi cette démarche d'arriver à convaincre à l'intérieur, enfin à sponsoriser et influencer à l'intérieur. D'accord. Et donc du coup, toi, la plupart des gens qui te trouvent pour bosser sont ces personnes-là. Qui se trouvent via quoi? Via du coup des articles que tu écris, via des conférences, via justement
Ouais, via tout ce que je publie.
du contenu que tu leur
C'est
apportes.
ça. Voilà. En plus, on est vraiment dans une époque de promotion du contenu. Enfin, on nous envie, on est clairement engagé de plus en plus à partager le contenu. C'est des choses que je faisais avant parce que de l'agilité, c'est aussi ça, c'est énormément de partage. Donc, c'est les conférences que je publie. Je suis plus trop un, jamais été un gros blogueur. Non pas que j'aime pas ça, mais parce que j'ai pas le temps. Donc maintenant, je monte une chaîne YouTube, donc je vais partager du contenu sur vidéo. Chaque fois que je suis invité quelque part pour faire des broadback lunch ou des interventions, des animations. Donc ouais, l'idée c'est ça aussi, c'est de diffuser ces choses-là.
Donc souvent l'interaction directe à l'oral et puis après aussi de la vidéo quoi. D'accord. Ok.
Ouais.
Bon bah cool. Merci pour tous
Mais merci
ces petits
Fabrice.
moments de partage. Et puis à bientôt.
À bientôt. Voilà, excuse-moi.